Radio Campus Angers. L'Afterwork avec Olivier Pia.
Bref. Mes amis, oui, l'Afterwork de Radio Campus Angers, fidèle au rendez-vous du jeudi 18h. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, si vous rejoignez notre communauté, la famille de l'Afterwork. Voilà, c'est aujourd'hui le 160e épisode, waouh, de l'Afterwork de Radio Campus Angers. Et oui, merci, merci de votre fidélité, de relayer les infos sur les réseaux sociaux, d'écouter les podcasts, de les partager. Et votre élan de bienveillance, d'attachement à cette émission et aux personnalités qui viennent la faire vivre va être servi aujourd'hui puisque nous allons vous raconter une histoire. Voilà, une histoire, une belle histoire. En fait, plusieurs histoires. La grande histoire, déjà, avec un grand H, au travers de 5 siècles de la vie d'un château, celui du Plessis de Vert, le château de Vert, les amis, qui appartient depuis une petite dizaine d'années à la famille Alizon. À Daphné et Baudouin Alizon qui sont avec nous pour en parler. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Daphné. Bonsoir Olivier.
Baudouin, et soyez les bienvenus.
Merci.
Je suis ravi de vous recevoir, de retracer l'histoire dingue de ce patrimoine et puis de parler avec des passionnés de vieilles pierres. Comme quoi, comment ça arrive comme ça qu'on puisse acheter un château en 2011 avec un plaisir fou, c'est certain, mais un plaisir qui peut être parfois grignoté par des contraintes, par une vérité de travaux, de restauration, voilà, tous les étages, un entretien conséquent. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Mais le château continue à vivre grâce à vous, et ça c'est génial. Il accueille des grandes manifestations, publiques comme privées, et puis des artistes aussi, de musique notamment. C'est la vie de Châtelain pendant une heure pour cette émission, un afterwork qui va encore nous apprendre plein de choses et nous faire rencontrer des gens passionnés. Moi j'adore ça parce que les gens passionnés sont toujours passionnants. Ça c'est une vérité absolue. Et puis il y a un événement. Au début de l'automne dernier, il y a 3-4 mois, suite à d'importantes précipitations, à une pluie violente, une partie des murets qui entourent les douves du château s'effondre. C'est bien ça?
Oui, en fait, c'est la tempête Amélie qui a donc, grâce aux pluies diluviennes, effectivement, enfin, grâce, à cause, effondré le mur des douves du médiéval du château.
Voilà, oui. C'est ça. Mais cela ne met pas en péril, évidemment, le château, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a des travaux assez vite, et puis des travaux assez coûteux. Et là, les gens qui sont passés par là se souviennent de votre accueil, de votre générosité, de votre passion, celle que vous transmettez. Et les amis du groupe, entre autres, Cendre et Siro, vont arriver d'un instant à l'autre, et ils ont décidé d'organiser une fête, une manifestation, c'est ça, mmh. Et d'inviter plein d'artistes qui vous connaissent de près ou de loin, en tout cas qui veulent vous soutenir. Et ça, c'est vraiment une très belle action. Ça se passera au Château de Vert et ce sera une grande soirée ouverte, gratuite, où on pourra participer, manger, déguster, boire un coup et aider à l'entretien de ce château.
Oui, exactement, Olivier, ouais, c'est génial. On remercie énormément Enrique et Cachia, donc du groupe Cendre et Siro, qui ont organisé ce festival bénévole avec d'autres groupes. Ce qui nous touche énormément.
Évidemment. Bref, un week-end de soutien au château de Vert et à ses propriétaires. Ce programme riche est celui de l'Afterwork de la vie de château. Merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio Jérôme Ray de Radio Campus Angers. Et puis du côté de l'équipe, la petite team, eh bien, la réalisation est assurée par, puisque évidemment Stéphane Bern était absent ce soir, par Étienne. Salut Étienne.
Bravo Étienne.
Programmateur de Radio Campus Angers, c'est un plaisir. Mes amis, je déclare ouvert ce 160e épisode de l'Afterwork de Radio Campus Angers. Bim! Voilà, ça c'est la présentation.
Sur Radio Campus Angers, 18h, 19h.
Bien, alors si on partait déjà de l'histoire extraordinaire de ce château du Plessis de Vert, puisque c'est son nom.
Oui, c'est ça, Olivier. Alors ce château a en fait 800 ans d'histoire, puisque le premier château a été construit au XIIe siècle. Et il nous reste ces fameuses douves dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure. Ces douves qui se sont effondrées dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019 à la suite de la première tempête de l'hiver, la tempête Amélie. Donc on a 25 mètres de douves sur 300 mètres qui se sont effondrés. Heureusement, tout n'est pas par terre.
Non,
mais voilà, ce sont ces douves qui ont 800 ans et que l'on va essayer de restaurer grâce à ce festival, le Festival des Douves. Mm-hmm. Au XIIe siècle, pour revenir à ta question, l'histoire du château de Vert.
L'histoire du château, moi j'ai envie de comprendre.
L'histoire du château de Vert.
C'est passionnante.
Ah bah oui.
Il y a une très belle histoire au XIIe, puisque c'est Chrétien de Troyes qui part au sacre de Conan IV à Nantes, qui s'arrête au château de Vert, qui rencontrent le propriétaire Samuel de Verre. Et là, ils discutent, ils trouvent le château absolument magnifique.
À ne pas confondre avec le château de Verre en Gironde, je crois. V-A-Y-R-E.
Absolument, absolument. V-A-I-R, le château du Plessis de Verre, de son nom complet, dit château de Verre. Et au XIIe siècle, Chrétien de Troyes écrit le premier roman qui parle du Graal. Et il fait, d'après les historiens locaux, du château de Verre, le château de la merveille, le château qui héberge le Graal, le château aux 500 vitraux. Donc dans Perceval ou le Comte du Graal, le château de Verre, c'est le château qui héberge le Graal. Et pour se remémorer cette histoire, on a une visite pour les enfants, où on part à la quête du Graal, tout simplement.
Et également une visite pour les adultes, qui retrace tout l'historique, notamment le passage de Chrétien de Troyes. Voilà. Donc c'est vraiment le premier dans toute l'histoire qui écrit le mot Graal dans la littérature.
D'accord.
Voilà,
c'est carrément quelque chose de fondamental pour les passionnés d'histoire.
De la merveille.
La merveille. Je crois que les amis sont arrivés. Ils, ils peuvent nous rejoindre si vous avez.
Venez, Enrique et Kachia.
Nous sommes en direct. Ça tombe bien. Salut Sandré Siro, bienvenue. Bienvenue. Oui, tout le monde est avec sa casquette, effectivement.
Voilà.
On peut retrouver les photos sur le Facebook de l'émission. Bonsoir, enchanté. Et donc, pour revenir à l'histoire de ce château, 500 années d'histoire, ce qui est absolument colossal, ce Graal, et ça, c'est quand même...
Le Graal, la quête de l'absolu, la jeunesse éternelle.
Et ça fonctionne ou pas?
Yes. Je pense que ça fonctionne. On a toujours 20 ans depuis qu'on a acheté ce château, on a gardé 20 ans, donc oui, si, je pense.
On a rajeuni alors, parce que...
toutes les parties du château sont ouvertes à la visite, ou vous disiez qu'il y avait des visites?
Oui, alors toutes les belles parties sont ouvertes, c'est-à-dire les salons du château sont ouverts.
Ils sont décorés, comment ça se présente?
Alors il y a des meubles qui sont dans le château, qui n'étaient pas là à l'origine quand on l'a pris, parce que le château était vraiment dans un état assez déplorable.
Ce qu'on appelle une coquille vide.
C'était une coquille vide, et puis il pleuvait dans les salons, il y avait des trous de 2 mètres carrés dans le toit, enfin, les allées n'étaient pas praticables, le parc non plus.
D'accord.
Donc tout ça, il a fallu le restaurer. On a pu racheter des meubles, d'ailleurs il y a une petite anecdote, Daphné pourra la raconter tout à l'heure sur cet achat de meubles qui a permis de meubler un peu le château. Et puis il y a surtout le parc et l'ensemble des communs, puisque le premier château est du 12e, mais il y a eu 4 châteaux sur le site.
Au fur et à mesure.
Et au fur et à mesure, donc 15e, 17e et 19e.
D'accord.
Voilà. Donc à chaque fois avec des histoires extraordinaires.
Donc ça, ce sont des propriétaires qui décident de faire de changer l'aménagement.
Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui faisait qu'on change un château?
Alors qu'est-ce qui fait qu'on change? Plusieurs choses, plusieurs raisons. D'abord la vétusté. Ensuite, les mœurs de l'époque qui changent, qui évoluent. Entre le 12e et le 15e, les mœurs de l'époque ont changé, ont évolué. On a voulu des châteaux plus grands, plus beaux. Il y a aussi le statut du château qui évolue en fonction de ses propriétaires. Plus on a un niveau social élevé, plus on veut en mettre plein la vue. Et donc, on rajoute des bâtiments, des communs, des écuries, des chapelles, etc. etc. Voilà. Et au 15e siècle, après cette petite seigneurie locale, c'est un général, le général des finances du royaume.
François de Cardone.
Oui, François, Jean-François de Cardone. Espagnol d'origine.
Avec l'accent.
Conseiller du roi, quand même. Conseiller de 4 rois, en fait. Et jusqu'à François Ier, qui a accueilli toute la cour de France. Il a accueilli la reine Claude, qui était enceinte d'Henri II.
Qui n'était pas une pomme à l'époque.
Et non, c'est devenu ensuite une prune, pas une pomme.
Une prune, d'ailleurs.
Soyons clairs.
La reine Claude.
Et donc, en fait, il y avait des épidémies de peste à Nantes et à Angers. Et en fait, le roi François s'arrête chez Jean-François de Cardone parce qu'il fait partie, justement, des ministres de la cour. Et du coup, il reçoit le roi et toute la cour au château. Et pendant qu'il part faire son tour de Bretagne, il laisse la reine Claude de France, qui était aussi accompagnée de la future reine... Anne Boleyn, future reine d'Angleterre, qui a eu un triste sort, au final. Bref, donc et ces gens-là restent pendant 2 mois quand même au château. Donc on dit souvent, on a un château, on a fait une chambre pour le roi, il n'est jamais passé. Là, non, il n'y avait pas de chambre pour le roi, sauf qu'il y... Enfin, le roi et la reine, ils sont restés quand même pendant 2 mois. Donc, c'est un château historiquement
donc
très
là, on
puissant.
Est en 1518. On parle bien de François Ier. On a fêté les 500 ans du passage de François Ier en éditant une nouvelle visite, en faisant un zoom. Donc,
d'accord.
Autre visite historique du château, François Ier et la reine Claude au château de Verre pendant 2 mois.
C'est ça. D'accord. Donc là, c'est la nouveauté 2020, en fait. Hein. On est sur ce qui va sortir là au mois d'avril.
Ouais. Mmh. Et donc, quelles sont les parties qui se visitent? Alors, tu nous expliques.
Alors, tous les salons du château se visitent.
D'accord.
Et puis, ensuite, c'est...
Mais les week-ends pendant les vacances, sur rendez-vous ou pas
les... Alors, c'est du mois d'avril au mois de novembre, tous d'accord. les mercredis après-midi.
Ok.
Puisque le reste du temps, le château est consacré à d'autres festivités, à des mariages.
Notamment.
Voilà,
ouais.
Énormément de mariages.
Évidemment.
Et puis, quelques séminaires. Depuis 2 ans, on développe aussi cette activité-là.
Évidemment.
Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se visite? Donc, on a dit les salons du château, la chapelle, le pigeonnier. On voit les communs de loin parce que les communs ne nous appartiennent pas. Ils ont été dissociés du
d'accord.
site il y a très longtemps, il y a 70 ans. On voit les pavillons d'entrée, on voit le four à pain. On fait tout un tour. La visite dure environ 1h15.
D'accord.
Et elle peut se faire sur smartphone, sur tablette ou sur livret à d'accord. l'ancienne. Mais vous pouvez de chez vous, là, ce soir, tout de suite, aller pianoter Château de Verre Visite et vous avez accès gratuitement sur Internet aux visites du Château de Verre.
Très bien, il y a également un parc étonnant tout autour.
Oui, il y a un parc de 6 hectares avec de très vieux arbres, des arbres remarquables. Notamment, on a 2 arbres qui sont absolument magnifiques. C'est un cèdre du Liban qui fait plus de 32 mètres de haut, 6 superbe. Mètres de circonférence. Mmh. Et un chêne pédonculé aussi qui est de la même époque, environ 200 ans. Ce sont des arbres absolument magnifiques. Et on a aussi, Daphné, l'allée de marronniers.
Daphné, je te renvoie la
balle.
Super
intéressant. Bim. Pourquoi je te parle de l'allée de marronnier?
Parce qu'elle est extraordinaire. On
c'est
a
vrai.
Eu récemment quelqu'un qui va écrire un livre sur cette
alors,
allée de marronnier.
Moi, je parlerais de l'allée de marronnier, alors que c'est plutôt ton domaine, non? Notamment
alors,
les
parlons,
lagages.
Alors parlons. Cette allée de marronnier qui fait 400 mètres de long. Il y a plus de 70 marronniers. Donc on est à l'époque où ces arbres qui viennent de l'Inde, qu'on on importe en France. C'est quelque chose d'extraordinaire
quoi,
et donc on plante des arbres. Alors c'est toi ou c'est moi?
Vas-y, parle.
Temps, on plante des arbres extraordinaires pour l'époque, puisqu'on importe à la fois des arbres, mais on importe aussi des orangers, des citronniers, etc. Et on crée des orangeries pour stocker donc tous ces arbres exotiques pendant l'hiver, et on les sort au printemps, on les rentre à l'automne, et voilà, on crée des bâtiments plein sud avec plein de baies vitrées pour pouvoir préserver ces arbres.
Très bien.
Voilà.
Et la petite anecdote sur le... Parce que j'ai noté, moi, la petite anecdote sur les meubles. Je veux l'anecdote sur les meubles.
Ah, ça, c'est génial. En fait, quand on a acheté le château de Verre, nous, on est partis de rien. On a un parcours très atypique. C'est-à-dire
en parler, oui, bien sûr.
Tu veux qu'en parler après, peut-être d'abord l'anecdote?
Comme tu veux. Écoute, c'est bien. Okay. C'est bien comme tu le feras.
Bah, écoute, du coup...
Nature liche.
Parce qu'en fait, ça vient dans l'histoire. C'est pour ça que je commencerai bien par ça. En fait.
Alors, on commence par ça.
Voilà.
Monsieur, madame, allisons.
Alors, parcours atypique. C'est-à-dire qu'au démarrage, nous, on n'avait rien pour parvenir vraiment à acheter un château. C'est un rêve de longue date. On adore les vieilles pierres.
Ouais. J'imagine qu'il faut être amoureux des vieilles
légèrement.
Pierres.
Légèrement. Il faut connaître un petit peu quand même cette vie-là. Du coup, dans la famille de Bouzin, il y avait aussi des châteaux.
Mm-hmm.
Et dans la mienne aussi.
D'accord.
Donc, savoir qu'il n'y a pas de confort, que ce n'est pas du tout l'image d'Épinal qu'on se fait du châtelain.
Mm-hmm.
C'est souvent assez compliqué d'y vivre.
Bien,
mais
bien
quand
sûr.
On aime, c'est une vraie passion. Et du coup, tous les deux, on avait cette passion-là. Et
d'accord.
on s'est rencontrés sur cette même passion avec la volonté de sortir un site de la ruine. Donc on a mis 10 ans à chercher un château dans toute la France.
Donc tous les deux, vous étiez là à vous dire, on veut acheter un château, mais on ne sait pas lequel.
C'est ça.
On cherche.
Exactement.
Comme des gens cherchent une maison, un pavillon ou un appartement bien placé.
Nous, on a cherché 10 ans un château partout en France parce qu'on voulait faire ce que l'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire
d'accord.
partager un lieu, faire une activité parce que c'était obligatoire pour nous, pour simplement le restaurer, l'entretenir.
Bien
et,
sûr.
Puis,
un mot peut-être sur vos parcours personnels. Avant cette envie commune, vous aviez grandi dans des châteaux. Qu'est-ce qui se passe dans l'enfance de chacun?
Oui, alors c'est vrai ce que disait Daphné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des châteaux dans nos familles respectives. Moi, j'ai accompagné avec mes parents la fin de vie de mes grands-parents pendant 10 ans, qui avaient un château à côté de Grenoble.
D'accord.
Et pendant 10 ans, j'ai vécu cette vie extraordinaire. Enfin, ce sont des lieux qui sont très ouverts aux autres, non seulement à la famille qui vient, qui rentre, mais aux habitants autour du lieu qui venaient soit faire du jardin, soit donner un coup de main, soit... voilà, il y avait une association autour de ça qui aidait la famille à restaurer, à entretenir ce château. Ce sont des lieux qui sont, quand la personnalité des propriétaires permet de les ouvrir, qui sont extrêmement vivants et extrêmement ancrés dans le présent. Et dans lesquels bah, il fait, je trouve, très bon vivre, même si l'hiver, c'est un peu frais.
C'est un peu rude parfois en hiver, mais on peut
parlera,
tout imaginer.
Évidemment, ouais, tout à l'heure, on en parlera, parce que c'est intéressant c'est aussi clair. De savoir cette réalité. Donc toi, plutôt du côté Grenoble, Isère.
Oui, c'est ça. Moi, je suis originaire, ma famille est originaire de Grenoble.
D'accord.
L'Isère et la Drôme. Et puis on s'est rencontrés avec Daphné à Paris parce que le travail nous a amenés chacun dans nos vies respectives vers l'âge de 25 ans à Paris. Et on s'est rencontrés avec ce projet commun. On en a parlé tout de suite. On a parlé de deux choses. D'accord. Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu veux un château? Ah bah oui, pour les deux. Allez, on y va.
Ou un château pour mettre les enfants.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et pour toi, Daphné, c'est quel... pareil, famille avec des châteaux?
Oui, alors pour moi, en fait, quand j'avais 15 ans, mes parents... ma grand-mère avait un château avant. Et puis, on avait toujours vécu enfant avec les cousins dans une vie de grande liberté autour d'un monument historique. Donc plein de super souvenirs liés à ça. Et quand j'avais 15 ans, mes parents ont acheté un château. Donc on a changé de vie, on était dans une ferme, on a acheté un château. Et qu'on a ouvert au public. Donc j'ai participé aussi
à ma façon.
C'est le palais Brio qui se trouve à Varade.
C'est un
super palais. C'est le palais d'ingénieur des chemins de fer. C'est un cas unique de palais italien. Vraiment, c'est dingue.
Comment il s'appelle?
Le palais Brio, B-R-I-A-U. C'est incroyable. L'ingénieur avait, il produisait son électricité lui-même, il avait tous les canaux pour remonter son eau, il avait des citernes. Fin...
Début 20e?
Alors, là, on est 19e, là, par contre.
19e?
Ah oui, il a les premiers bétons armés, c'est incroyable, c'est un site de dingue, genre un peu comme les Folies-Sifet, avec des souterrains, des passages, c'est dingue, à flanc de coteau.
Alors, les premiers bétons armés, c'est pas très sexy, ma chérie, mais contre, il y a vraiment des grandes glaces, du cuir de cordoux sur les murs,
tu as du stuc, c'est le château
de l'escalier magnifique.
Kramer contre Kramer, la vue de château pète les plombs.
Non, c'est juste un endroit de dingue. Donc, avec une vue, ça tombe sur un ancien bras de Loire, c'est sublime, avec une vue en face de Saint-Florent-le-Vieil. On est exactement à mi-chemin entre Nantes et Angers. C'est vraiment un endroit très très beau. Après, il y a tous les meubles d'époque. Donc ça, c'est quand même assez rare d'avoir dans un bâtiment autant de mobilier d'époque 19e. C'est superbe, avec un escalier qui fait 15 mètres de hauteur.
Là, on est de retour sur le château de verre.
Non, je suis encore au palais Brio. C'est l'histoire de mon enfance là.
Oui, d'accord. Oui, carrément, en plein dedans, super.
Superbe. Un escalier en marbre, 15 mètres de hauteur.
Donc toi, t'as grandi là-dedans, et donc ça a nourri une passion.
J'ai adoré. Moi, j'ai installé mon bureau sur le toit. Je faisais hypocagne et cagne. Je rêvais que d'une seule chose le week-end, c'est d'aller bosser sur le toit. Donc j'avais installé mon bureau en haut. C'était un toit terrasse. J'étais mais le bonheur, dominer la Loire comme ça, avoir une vue imprenable. D'accord. J'ai gardé ça. Le côté inconfort, parce que j'avais 3 paires de gants, mais d'être dans un lieu sublime avec un espace et une liberté de vie.
Chacun vos vies de votre côté, il y a un héritage. Vous avez, les châteaux sont encore dans la famille, ou à vos parents, vos frères et sœurs, vos oncles et tantes?
Alors, moi, en l'occurrence, mes parents sont encore là-bas. Ils font encore visiter le château. Ils ont des chambres d'hôtes également.
C'est toujours dans la famille, non?
C'est ça, c'est toujours dans la famille. Côté héritage, si on parle d'héritage de transmission, on n'a pas du tout de transmission de mon côté. Du tout. Nous, on est partis de rien. C'est une histoire de passion qui est accessible à tout le monde, en fin de compte. Et c'est ce qu'on ne sait pas assez.
Oui, complètement. Ouais. C'est vrai, moi aussi. Donc, il n'y a pas d'héritage de mon côté non plus, de château. Mais ce que dit Daphné est tout à fait juste. C'est-à-dire que... On est parti vraiment avec rien au départ. Notre premier appartement qu'on a acheté, il faisait 50 mètres carrés en région parisienne. On l'a acheté sans apport parce qu'on ne pouvait pas. Et puis on l'a restauré. C'est un appartement squatté qu'on a entièrement refait du sol au plafond. On l'a revendu. Ensuite, on a acheté une maison abandonnée. Là, pareil,
une
on a refait...
dans le coin d'Enghien-les-Bains. Une jolie meulière. Mais il y avait un boulot de dingue. Enfin, pareil, qu'on a entièrement refait.
du sol au plafond aussi, cette maison-là, et on l'a revendue, et c'est avec cet apport et ces apports liés à ces immobiliers, cet immobilier-là, ces achats-reventes, qu'on a eu, après 10 ans, hein, tu vois, de recherche à travers vraiment toute la France. On a été à Toulouse, dans le Morvan, à côté de Rennes, on a été dans plein d'endroits différents, et puis on a pu finalement acquérir le château de Vayres qu'on avait visité quelques années auparavant. On était tombé amoureux de ce lieu, mais il nous était passé sous le nez, il était déjà vendu.
Ah,
et voilà. Et 6 ans plus tard, le hasard a fait qu'il était à nouveau en vente.
D'accord.
Et là, on s'est dit, il ne faut pas le louper. Et voilà. Et trois mois après la mise en vente, l'agent immobilier me prend par le bras. On était au mariage d'un frère de Daphné. Il me prend par le bras et il me dit, Baudouin, j'ai l'exclusivité sur le château de Vayres. Est-ce que ça t'intéresserait ? On a négocié le prix tout de suite et 3 mois après, on était propriétaire. Après 10 ans de recherche partout en France et vraiment des moments qui étaient un peu compliqués. Je me souviens de déprime parce que...
Il y a eu des presques, il y a eu des choses...
Avec des gens qui arrivent, qui ont directement les moyens financiers, qui ne passent pas par un emprunt, contrairement à nous, et qui évidemment passent devant. Enfin...
D'accord.
Non, plein de fois, plein de déceptions.
Les premières personnes à convaincre quand on avait 25 ans, 30 ans, c'était les agents immobiliers pour leur dire « Si, on est sérieux. Oui, on va vendre notre appartement d'abord, mais non, notre maison après, et puis on va emprunter pour oui, comme on achète un bien immobilier. » Mais ils ne voulaient pas nous faire visiter en disant « Non, vous n'êtes pas sérieux, un château, ça s'achète cash. »
D'accord, effectivement.
Voilà. Alors non, nous, on ne
pouvait pas. Pour nous.
Une question pratico-pratique, une différence entre manoir, château, domaine.
C'est la taille. Essentiellement, c'est la taille du bien. Voilà, un manoir, c'est plus petit qu'un château.
Ah, c'est comme supermarché, hypermarché.
Et ouais, c'est pareil. Ouais. Alors, c'est peut-être un peu moins précis en nombre de mètres carrés. Ouais. Mais
D'accord, ok. Pas.
Donc et là, du coup, on arrive à la fameuse anecdote que tu attendais, Olivier.
Bah, oui,
avec
bien sûr, sur les meubles.
C'est ça. Donc en fait, on venait juste de signer une promesse d'achat. Et en fait, on était à Toulon chez les parents de Baudouin. Et j'ai la malencontreuse idée de cliquer sur eBay sur un lot de meubles à vendre. Mais sans du tout maîtriser le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment dérisoire en termes de prix. C'est-à-dire qu'il y en avait pour 1 000 euros. Et il y avait 120 meubles.
Alors attends, dans l'histoire, il y avait 70 meubles. Ça devait coûter 1 000 euros. Daphné fait une enchère, elle remporte l'enchère, personne n'en voulait.
C'est ça. Je vais voir Baudouin, je lui dis, Baudouin, je pense que j'ai fait une connerie parce qu'en fait, on n'est pas encore propriétaire. Et je sais pas, il me dit, mais ça représente quoi ? Je lui dis, j'en sais rien. Et donc, on appelle le gars un smirmorgue de meubles. Oh, zut, alors attends, on va le mettre où le smirmorgue de meubles ? Parce que nous, on était encore en région parisienne, c'est-à-dire qu'on déménageait en plus. Alors, le propriétaire précédent a eu la gentillesse d'accepter qu'on débarrasse tout ça alors qu'on n'était pas propriétaire.
De stocker, quoi.
C'est ça. Et on a fait une énorme... notre première opération de com', c'est ça. Une énorme vente de meubles parce qu'il y en avait trop, en fait.
Et parce que quand le camion remorque est arrivé, on a déchargé les meubles, on les a comptés. Et donc, on compte 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 au total.
Il s'est débarrassé de tout un lot. Camion.
Exactement. Et donc, nous, on a pris les meubles pour meubler le salon.
Ah,
et puis
dingue.
Après, on a revendu tout le reste. Et
il y avait
payé
des trucs super.
À la fois
dingue.
Le transport et l'achat des meubles. Ouais.
Pas mal.
Excellent. Non, franchement,
voilà.
Sur le coup, j'ai un peu flippé, mais après...
super affaire.
Après, c'était intéressant. C'était bien.
Ou alors, et la vie de château, c'est un rêve ? Tradition
Alors c'est un rêve, c'est d'abord un rêve. Ouais. La tradition, non, pas du tout, même si on a connu ça.
Oui.
On sait à quoi on s'attend et c'est vrai que c'est important parce que c'est quand même une vie originale et particulière. On oublie le confort. Le luxe, pour moi je le dis souvent, le luxe dans un château, ce sont les volumes. C'est l'espace.
Ah, voilà. C'est sûr, non, mais ça, c'est primordial.
Ouais. Après, c'est du simple vitrage, il n'y a pas de chauffage. On a la température extérieure dans nos chambres, plus quelques degrés. Et puis, il est arrivé qu'on... Régulièrement, on a 8 degrés dans nos chambres en hiver. Et c'est arrivé qu'on ait jusqu'à moins 1 quand il faisait moins 10 dehors.
Alors, sincèrement, oui, il est arrivé qu'il gèle à l'intérieur, sur les carreaux. N'empêche qu'on dort hyper bien quand il fait froid. Et ça, c'est ce que tout le monde a oublié, c'est que le chauffage, ça rend les enfants malades, ça nous rend malades nous aussi. Et qu'en fait, on n'en a pas si besoin que ça. Et
non seulement on n'en a pas besoin, mais en plus ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucun enfant qui se lève la nuit quand il fait 8 degrés dans les couloirs.
Il reste
bien au chaud sous la couette.
Personne n'est malade. C'est juste
faire pipi
génial.
Parce qu'après tu pourras plus avant 8 heures du matin.
C'est ça. Oui.
Comment ils l'ont pris les enfants? Ils étaient jeunes quand vous avez
appris? Oui, ils étaient jeunes.
Petit en 2011.
Les aînés avaient 6 ans, 6 ans, 5 ans pour les deux aînés.
Ça change de confort quand même.
Ça change de confort. Ce qui était dur pour eux, c'était un peu de quitter les copains-copines. voilà, de l'école. Et puis aussi, à un moment donné, il fallait bosser dans ce château parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc, on était très, très pris avec Daphné. On était sur nos échelles, nos échafaudages, avec nos pinceaux, nos machins.
Vous avez fait vous-même ?
Au début,
on n'avait pas le choix. Hein, donc, il fallait vraiment que ça avance vite. En plus, on n'est que 3 mois avant les premiers mariages. Entre le début de l'achat du château et les premiers mariages, il y avait 3 mois. Il y avait un boulot de dingue. Moi, je me souviens d'avoir refait un plafond.
Commencer à vendre des dates avant de...
Ah oui, clairement.
Dès en arrivant, dès mais, en achetant.
Mais oui, quand on c'était même pas acheté. Hein, on commençait déjà à vendre. Il fallait que ça marche. Il fallait que ça marche tout de suite. Et je me souviens de soirées improbables où en fait moi je terminais le plafond, il faisait 280 mètres carrés quand même le plafond de la salle.
C'était dingue, c'est à
dire, mais en fait j'aurais jamais fini 280 mètres carrés.
Voilà. Et puis on se levait la nuit. Alors il y a un truc, je sais pas si tu sais Olivier,
oui.
Moi j'ai repéré un truc en achetant le château de Verre. Les orages, c'est toujours à 2h du matin. et je peux te le dire parce que à 2h du matin, à chaque orage, on se levait au départ, on allait éponger les salons et on allait vider les 70 bassines du grenier parce tellement il y avait de trous partout. Voilà, c'est ça le démarrage d'un château.
Ouais, c'était un gros pari.
Tu vois, c'était simple. Et à un moment donné, si quand même les enfants, tu me posais la question sur les enfants, comment ils ont pris la chose, ils sont venus nous voir, les deux petits, 6 ans et 5 ans, et ils nous ont dit « Papa et maman, on veut rentrer. On veut rentrer en région parisienne, là où on était, parce qu'on ne vous voit plus. » Et ça nous a fait mal. On a pris 20 minutes, on est descendu de nos échelles, on leur a expliqué et on leur a dit le projet, ce qu'on voulait faire, en leur disant que dans l'avenir, ça allait évidemment s'améliorer, mais que tout de suite, il fallait qu'on mette un coup et on est reparti sur nos échafaudages. Mmh. Donc voilà, c'est ça, la vie de château. On ne veut pas faire pleurer dans les chaumières,
c'est
la vie d'une passion, c'est une réalité. La passion, c'est ça, c'est pas simplement on se met dans un fauteuil et on fume le cigare.
Est-ce qu'on en voit le bout au bout d'un moment, ou est-ce que quand une pièce est finie, il faut attaquer une autre et que la seconde est finie, il faut revenir à la première? Alors, parce que...
En soi, c'est jamais vraiment fini. Il y aura toujours des travaux à faire à droite et à gauche. Maintenant, on arrive quand même à un certain stade de restauration et on est quand même plus serein par rapport au confort, pour
le quotidien.
En tout cas, oui, on sait qu'au moins, il n'y aura pas d'énormes travaux, sauf ceux qui te tombent sur la gueule avec la trompette Amélie.
Genre les douves.
Mais globalement, ça va. Franchement, on a une certaine sérénité. On a beaucoup de mariages. On a 60 par an. Ça fonctionne très bien. Quand même, en étant fermé 4 mois de l'année. Il y a un vrai coup de cœur par rapport au site, par rapport à ses possibilités. Et c'est vrai que là-dessus, on peut être serein parce qu'on a une visibilité jusqu'en 2021-2022. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Et après, sur les travaux, ça se fait au fur et à mesure. Sauf quand on a un gros pépin, comme justement l'effondrement des douves.
Ça peut arriver.
Pas trop prévu.
Des travaux, quand on achète un château, on achète des travaux. Donc, c'est à vie. Ça s'arrête jamais. Mais c'est vrai ce que tu dis, Daphné, c'est-à-dire que on l'a acheté en 2011, jusqu'en 2015, chaque hiver, on perdait quelque chose sur le site. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des tuffeaux qui s'effondraient, il y a des toits qui s'envolaient, il y a des
pas forcément
des
prévu, tu veux dire, enfin, des choses.
Par vétusté, par manque d'entretien pendant des dizaines d'années, on perdait des choses. Et à partir de 2015, on avait réussi à inverser la tendance.
D'accord.
Jusqu'à 2019, jusqu'à cet effondrement de 25 mètres de mur des douves, où là, on a perdu un gros pan de mur. Quoi. Mais sinon, le site, tu vois, se restaure régulièrement chaque année. C'est-à-dire, tout ce que l'on gagne, on le réinvestit sur le site. On prend juste la petite portion pour vivre.
En 2025, 2030, ce sera à peu près tout restauré. Vous avez un calendrier comme ça ou...
Alors, on a des projets, oui. On a des projets, une visibilité sur l'ensemble des projets. On sait aujourd'hui, on connaît nos plans de financement, c'est à peu près ce qu'on peut mettre chaque année pour restaurer. Et puis surtout, c'est l'aide que l'on peut avoir. Et ça, depuis le début, et je tiens à le dire, vraiment, c'est merci à tous ceux qui nous ont aidés, à tous les bénévoles, à tous les... On a fait beaucoup de crowdfunding. On en est à notre 4e donc, financement participatif en français. Donc, appel aux dons sur Internet de particuliers ou d'entreprises. Et aussi... aux institutionnels, c'est-à-dire l'État, la région et le département qui nous suit dans la restauration des travaux.
Il y a un vrai soutien. Parce
qu'on est à un site monument historique, donc on a droit à des subventions quand on demande. Il y a des contraintes associées et c'est bien normal vis-à-vis de ces subventions. Journée du patrimoine, conserver le bien pendant 15 ans, etc. etc. Mais c'est normal, c'est de l'argent public. Mais sans ça, on n'aurait jamais pu restaurer le château de Verre.
Et la finalité, tu disais, on a des contraintes, on doit être là pendant 15 ans, etc. La finalité, c'est de... c'est de le céder aux enfants, par exemple, ou de le revendre, ou alors, vous avez une idée de
alors
ce que
c'est une possibilité, hein, ouais, c'est une possibilité.
Ou alors c'est comme un travail,
c'est
pour vraiment... la retraite, on veut le vendre.
Ah oui, non, c'est pas comme un travail. On se considère, Daphné et moi, comme un maillon d'une très grande chaîne.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on l'a pris, on va essayer de le rendre, je sais pas à qui. Ça peut être un enfant, mais ça peut être quelqu'un d'autre. C'est pas un problème pour nous, ouais, c'est pas fait, un sujet de discussion.
Concrètement, on les élève dans une grande liberté. On leur imposera jamais de reprendre notre passion. Chacun étant au contraire plutôt chez nous, forgé à avoir sa propre destinée et à choisir librement ce qu'il va faire de sa vie. C'est vraiment ce qu'on leur inculque, quoi. Et qu'il faut bosser pour y arriver. Et que voilà. Et par contre, s'ils veulent pas reprendre, ils prendront absolument pas. Et ce sera quelqu'un d'autre qui prendra la relève, mais quelqu'un qui sera passionné également. On n'est que effectivement des passeurs d'histoire en fait dans l'idée.
C'est joli, c'est noble.
C'est joli, c'est très joli.
Et si vous nous présentiez nos amis qui sont arrivés? Sandre et Siro.
Ah, mais
qui
oui,
est Sandre, qui
avec
est Siro.
Grand plaisir.
Ni l'un ni l'autre.
J'aimerais savoir comment vous êtes connus et voilà ce qui s'est passé.
Enrique et Kasia, alors, peut-être on vous laisse la parole.
Bienvenue.
Comment on s'est connus,
madame?
Monsieur.
Allez-y, présentez-nous. Donc.
Alors, ça va faire bientôt 10 ans.
Kasia, j'imagine.
Kasia, c'est moi. Ça va faire 10 ans qu'on se connaît avec Enrique. On s'est connus à la Bolle parce qu'on faisait un travail alimentaire à l'Ermitage. Donc, d'accord. On dit toujours qu'on s'est connus à l'Ermitage. Et donc, tout le monde dit « Ah, c'est super, l'Ermitage !» Et on dit « Oui, mais on a travaillé dedans. » C'est différent.
Mais t'es de l'autre côté du décor.
Non, pas du tout. À la réception et au restaurant.
Et du coup, voilà, les temps nous a menés à faire une vie ensemble et j'avais pas mal de chansons qui traînaient un petit peu à droite et à gauche. Et madame m'a poussé un petit peu à les amener un peu plus loin que l'audience de mes chats. Et on a décidé de faire un groupe. J'avoue que j'étais très réticent à l'idée. J'en avais eu plusieurs qui n'étaient pas forcément très bien finis dans la genèse.
De la jeunesse. C'est joli.
J'étais un peu réticent à me lancer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Quand on y met beaucoup dans un projet, souvent toute la motivation et tous les efforts qu'on y dédie, on va dire, en fin de compte, ça peut se tourner en boomerang avec grande déception ou grosse claque ou te trouver tout seul parce qu'il n'y a plus personne qui veut tirer du char, on va dire, pour que ça avance. Donc du coup finalement on m'a convaincu et là ça fait là déjà
c'est la troisième année là.
Ouais, de Sandre et Siro.
Vous n'avez pas le même accent?
Non
pas du tout. Alors moi je suis catalan.
Sud et est?
Pologne.
Pologne.
Voilà, donc elle est polonaise, moi catalan, ça fait un beau mélange. Et du coup, donc là on joue avec un breton et
c'est ça qui ne colle pas. Là ça va plus là.
Et un angevin.
Oui,
voilà, donc du coup Sandre et Siro finalement c'est défini comme un groupe de un peu traditionnel, on va dire, Kasia est là à la voix et au clavier.
Ouais.
Y a et Guirman quelle voix.
C'est de la chanson française?
C'est de la chanson en français. Je ne veux pas dire chanson française parce que je ne suis pas français. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point il faut avoir un certain pedigree pour faire de la chanson française. En tout cas, on chante en français, on chante en anglais, on chante en espagnol et en catalan.
Voilà. Ah, incroyable.
Et les Polonais n'en passent encore, mais un jour, ça, oui. J'en suis sûr que ça va venir. On va s'y mettre.
Et à quelle occasion vous avez connu le château de Verre?
Alors,
puisque le week-end dont on va parler, le 15 février, week-end de soutien au château de Verre, suite évidemment à ce drame qu'a provoqué la tempête Amélie, ça a été instauré et lancé par le groupe Sandre et Siro.
C'est une idée folle qui nous est venue un petit peu.
Pas plus folle que d'acheter un château. Hein.
Non, c'est sans risque pour nous.
C'est ça.
Bon, ça dépend. Mais bon, en tout cas, Daphné et Vaudouin, ils ont organisé un festival que je recommande aussi, que c'est pas le festival d'ouf, ça s'appelle le spectacle en folie.
D'accord.
Et c'est une sorte de speed dating, pas sur un speed dating, donc, mais au lieu d'essayer de draguer une fillette ou de draguer un beau monsieur, tu essayes de draguer des producteurs ou des programmateurs qui seraient là intéressés pour des spectacles.
C'est des rencontres artistiques.
Voilà,
c'est ça. Un speed dating artistique.
Voilà, c'est ça, de troupes de théâtre, de groupes de musique.
Ah oui, en plus.
Et là, cette année, en plus, c'est ouvert aux arts.
Art de la rue.
Oui. Art de la rue, voilà.
Ça, c'est quelle date?
On a 4 scènes.
C'est 28 et 29 mars, c'est sur un week-end, donc c'est musique, théâtre, danse, art de la rue. C'est un speed dating. Alors nous, on dit speed meeting.
On est un petit peu. Ouais, on n'est pas sur le date.
On n'est pas sur.
Ah, moi, j'aime bien ce truc de séducteur. Là. C'est bien.
Mais, c'est le côté catalan, ça. C'est le côté catalan.
Ça y est, ça y est. Ça devait sortir.
Et comme la bande-annonce d'un film, donc les artistes, les compagnies vont présenter 10 minutes d'un extrait d'un spectacle existant.
C'est-à-dire qu'ils viennent sur une scène devant plein de gens. Ou alors oui, c'est du face-à-face.
Non, devant plein de gens, parce que c'est ouvert aussi au public, c'est gratuit pour tout le monde, comme le Festival des Douves.
Absolument.
C'est une entrée libre et gratuite. Et nous, on se charge de faire venir des programmateurs, des agents, des diffuseurs, pour qu'ils puissent voir les artistes sur scène dans une ambiance réelle, avec du public, public.
Et d'où vient cette idée-là?
Ah, d'où vient cette idée? Alors, au départ, on avait monté un petit festival, toujours au Château de Verre, très classique et traditionnel, de pièces de théâtre complètes. Et on s'est rendu compte, en côtoyant les artistes, parce que ni Daphné ni moi, on est du monde professionnel artistique, qu'ils jouaient extrêmement bien sur scène. Ils sont très talentueux, mais ils ne savent pas se vendre.
D'accord.
Et nous, on avait ça et on s'est dit, mais comment on peut faire pour aider ces artistes plutôt que de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire les produire sur scène, faire des pièces,
faire jouer,
comment on peut faire pour les aider justement à se présenter devant des programmateurs, des professionnels pour qu'ils les intègrent dans leur festival, leur programmation, etc. Et donc, c'est comme ça qu'est née cette idée de spectacle en folie et surtout de ces extraits de pièces de théâtre. Et donc, toute la journée, samedi et dimanche, s'enchaîne tous les quarts d'heure une nouvelle compagnie qui monte sur scène et qui vient présenter son spectacle.
Alors, il faut savoir qu'on a quand même 4 scènes et on reçoit plus de 200 artistes de l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Et en termes de public présent, on peut compter à peu près plus de 2000 cette année.
Oui, et en 2019, il y a eu plus de 2000 visiteurs en 2019.
C'est carrément colossal.
Ouais, c'est génial,
il y a une ambiance
un passage
de
fou.
Et ça, ce sera la combienième édition?
C'est la 4e édition. D'accord. En mars 2020.
Voilà. Donc, donc nous, on les a connus là.
Revenir à Sandra Siro,
dans cette édition, il y a une particularité pour les groupes de musique, ça se passe à la chapelle. Et avec toutes les contraintes que cela suppose, parce que tu peux
acoustique.
Pas amener tu peux pas amener à la batterie avec les sets complets ou avec au risque et péril de qu'on t'entende plus finalement ni d'instruments électriques, on va dire. Donc on a essayé de faire notre set qui se base donc basse électrique, guitare,
piano électrique,
etc. On a essayé de réduire tout ça. Est-ce qu'il nous a ouvert un petit, à partir du projet un petit peu de traditionnel du groupe pop rock, à essayer de voir si on pouvait, en même temps, les mêmes projets, les donner dans une version un peu acoustique très très intime.
D'accord.
Et ça nous est parvenu et on a à l'esprit l'idée de proposer à Daphné et Baudouin, qui ont très très gentiment accepté, de s'ils nous prêtaient la chapelle. Pour faire une résidence dedans, de façon à faire un petit peu ce qu'on avait commencé à faire au tout début, qu'on avait finalement tourné un groupe de musique, mais finalement de faire un petit spectacle qu'on puisse programmer dans toute petite salle ou un petit salon des gens qui voudraient programmer un concert chez eux.
Ouais.
Dans un château, par exemple.
Voilà.
Oui, même finalement, chez un particulier, même pour un anniversaire,
chante à part, tout
voilà.
ça.
Voilà. Donc, on leur a demandé s'ils nous prêtaient la chapelle. Ils ont tout de suite ouvert les portes pour qu'on fasse ça là-bas. Et ça, c'est fini.
Ouais, c'était sympa pour nous aussi parce que c'est génial. En plus, on faisait ça pendant les jours de visite, les mercredis où on peut visiter le château. Et donc, quand le public arrivait dans la chapelle, Henrik et Kasia étaient en train de répéter. Ça a un côté complètement magique, hors du temps. C'était fabuleux.
Voilà, donc du coup, ça a été septembre-octobre de mémoire. Et ça s'est fini par un concert de sortie résidence. On a vécu ces concerts d'une façon très magique, en fait. C'est fait tout seul. Il y avait une communion avec le public. Et je ne sais pas si c'était aussi pour l'accueil qu'on avait eu tous ces temps-là. Parce que, bien entendu, après chaque répète de la résidence, on refaisait les mondes avec Baudouin et Daphné. Donc, voilà.
C'était une partie sympa, quand même.
Voilà.
On refaire le monde jusqu'à pas
pour
d'heure.
Pour les uns et les autres. Pour tout le monde.
C'était trop bien.
C'était bien. Et du coup, on a fait ces concerts, on était encore avec cette saveur très douce dans la bouche de cette belle expérience. Les matins, je me lève, je surfe sur Facebook vite fait et je vois Alors là, je vois Daphné et Baudouin poster un truc. Ah là, les douves se sont effondrées, tout en sachant que les douves, la partie qui s'est effondrée, c'est vraiment tout près de là où on a joué. Donc, quelque part, on s'est effondré, nous aussi. Quand on a vu ça, c'était encore tellement frais.
Tu t'es dit, j'ai joué trop fort.
C'est ça, non, on s'est senti coupable, parce qu'on a tapé les pieds et tout. Donc, on s'est dit, ah, peut-être c'est nous. Non, 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 c'est pas nous quand même.
Non.
Mais ça nous a vraiment. Ça m'a bouleversé. On en a parlé et il y avait Cachin. On s'est dit, bon, d'accord, ils ont fait le crowdfunding. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter, c'est-à-dire, ouais. On ne peut pas apporter non plus quelque chose de vraiment qui puisse changer la donne, quoi. Mmh. Et on voulait quand même les aider d'une façon qu'on puisse aller un peu plus, ouais, plus loin, et même communiquer ça à plus de gens et faire un petit peu amplificateur du problème et amplificateur de solutions, quelque part.
Mmh. Et quelque chose qui les ressemble aussi. Donc, ressemble. Parce que le spectacle en folie, donc peut-être ce festival, donc rester dans l'art.
Complètement.
Voilà.
Le partage.
Exactement. Donc, du coup, il y a eu cette idée qu'avant de commencer à essayer d'appeler les amis musiciens, on est allé voir Baudouin et Daphné. On dit, écoute, on est très, 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 très triste par rapport à ce qui vous arrive. On avait fait la visite. Donc, Baudouin nous a expliqué exactement l'envergure de tout ça. D'accord. Et on leur a proposé. Dit, écoute, avec Cachin, on en a discuté. Et ça nous est venu à l'esprit de qu'est-ce que vous en pensez si on essaye d'organiser un petit truc, quoi, un festival.
Bah ouais.
Petit, pas très grand. Hein, c'est pas Woodstock qu'on vous propose. C'est simplement essayer de communiquer un petit peu, de faire jouer de groupes du coin, d'essayer de faire venir du monde, le plus éclectique possible pour toucher au maximum de personnes et de personnalités et de sensibilités, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont cherché depuis le début avec ces châteaux.
Donc, et la preuve, on en parle aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ils ont dit oui tout de suite. Et je dis, bon, voilà, donc là, il faut s'y mettre, parce que de dire à les faire, c'est une autre histoire.
Trouver la date.
Ça a commencé par trouver la date. Et on l'a trouvé rapidement, je trouve. Ça a été tout de suite.
Oui, parce que début novembre, la tempête Amélie, et quatre mois après.
Mais il fallait faire vite aussi.
Évidemment.
Ça ne valait pas la peine de dire, bon, on va organiser un festival pour les deux dans 2-3 ans. Non. Non. Donc, du coup, j'ai commencé à appeler des amis, pour dire ainsi, ou de groupes de musique qu'on connaissait, de s'être croisés dans différentes scènes, de gens qu'on avait entendu parler, mais qu'on n'avait pas. Parce qu'ils jouaient quand tout le monde
jouait. Voilà.
Et donc, du coup, j'ai commencé à voir les téléphones de ces gens, à voir les mails des uns des autres. Et finalement, ce qui a été bouleversant pour moi encore plus, c'était la gentillesse de tous, quoi. C'est-à-dire, quand je les appelais, je leur disais, écoutez, bon, voilà, on s'est croisés une fois, vous souvenez, dans ces festivals, je me souviens que ça vous dirait. En fait, de tous les gens que j'ai appelés, j'ai eu un seul refus, c'était pour un arrêt maternité, quoi. Donc,
et tout le monde vient jouer gratuitement.
Tout le monde vient jouer gratuitement.
C'est le plus des artistes.
Et c'est surtout que depuis le début, il y a ces côtés-là. C'est cool de jouer dans un château, on va faire ça. Bah oui, attends, c'est super, cool. C'est une belle initiative. On va faire ça.
C'est le samedi 15 février, samedi.
Oui. Voilà, 8. Samedi 15 février.
Premier jour de vacances.
Le festival de Douvres.
Ça se fait les vacances.
Ah oui, oui. Et du coup, on en a pour tous les goûts, parce que je tenais à connaître un spectacle aussi pour rassembler des familles. Quand même. Et là, je ne l'ai pas contacté moi, parce qu'il avait beaucoup plus de relations avec Baudouin et Daphné. Il y a un magicien qui vient, c'est Jonathan Renaud, qu'on l'avait croisé déjà.
Et peut-être qu'on pourrait détailler le programme après avoir écouté Sandré Siro.
Ah bah, si
ce
vous
serait
voulez,
bien ça.
Si vous voulez.
Bah ouais.
Qu'est-ce que nickel, il faudra que j'aille chercher une guitare, peut-être.
Vas-y, je t'en prie.
Ça peut être utile.
Rappelons que nous sommes dans l'afterwork de Radio Campus Angers. C'est la vie de château avec Daphné Baudouin-Lison, propriétaire du château de Verre, dont on a largement parlé et qui est vraiment surprenant. Et l'histoire de ce château et votre histoire à vous, amoureux des pierres et des artistes, si j'ai bien compris.
Oui, les artistes, vous avez entendu Henrik tout à l'heure, c'est vraiment, et Cachia sont des personnalités extrêmement belles qui nous ont beaucoup touchés quand ils sont venus nous voir pour nous proposer ce festival des douves. C'était une grande émotion avec Daphné. On n'y croyait pas d'ailleurs. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi son festival? Je comprends pas. Mais c'est,
non, tu étais hyper touché. Tu dis ça, au contraire. Vraiment, t'as hyper bien réagi. On avait les larmes aux yeux en vrai.
C'est ça. Mais c'est, on n'y croyait pas. C'était tellement. C'est un cadeau.
Ouais, c'est
un vrai cadeau. C'est énorme.
Donc avant de venir vous écouter le samedi 15 février, dans le cadre de ce beau festival au Château de Verre, nous allons écouter tout de suite sur Radio Campus Angers, Sandre et Siro. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Sophie et Thé?
Sofa et Thé.
Oui, t'as raison. Sofa et Thé, c'est écrit. Et
c'est un catalan, tiens.
Et c'est un catalan. Enric Guitar et Kashia à la voix. Allons-y, les amis.
Cossos no se torna al llum d'un to blau. Les notes tèbies de la pluja que cau. El temps s'esvaeix, encara que segueixin els batecs. Teixint un vestit de petó estampat de carícies i de llavis en flor. Desig s'escampa i crem sota la pell.
Sufa i te.
Sabent que ja no ens queda gaire temps. Teixim un vestit de petó. Estampat de carícies i de llavis en flor, i quan la nit ens esclafi i el cel ens tombi a sobre amb el seu pes i les hores ens diguin que temps no té temps a donar-nos temps i les presses enfonsin la llum en el por d'un malentès. La memòria ens tornarà a la tarda.
Sandré Siro, Sofa Ité, et c'est à retrouver en live dans le... Attends, imaginez ça dans un cadre aussi beau que le château du Plessis de Verre.
Ouais.
Alors là, s'il vous plaît.
Ah, c'était, donc ça, quand on a joué ça à la chapelle, c'était aussi super sympa.
Bon,
voilà, il y avait des gens...
T'imagines, une tension chapelle, très forte. Il y a des poils c'était... ici. Là,
mais là sur la galerie... où on va jouer, ça sera super sympa aussi par rapport au cadre, et ça sera sympa aussi parce qu'il y aura toute une évolution de plus petit à plus fort.
Alors,
on y va rentrer tout à l'heure.
Sur le site de Radio Campus et sur le podcast, on va mettre tout le détail du programme, mais tu veux nous en dire un mot peut-être, Baudouin ?
Oui, je peux t'en dire un petit mot. C'est-à-dire
on a quelques minutes pour en parler.
Allez, on démarre donc le 15 février à 16h.
C'est un samedi. Hein,
c'est, ouais, un samedi 15 février, 16h.
Il y a l'après-midi famille.
Ouais, c'est ça. Alors, Orchestre à l'école, donc c'est un label, l'Orchestre à l'école, c'est d'accord. Un collège d'une vingtaine de musiciens et qui viennent faire 30 minutes de concert. Ensuite, on a le fameux magicien Jonathan Renoux qui est extraordinaire, qui nous suit depuis Spectacle en Folie quasiment depuis l'origine.
D'accord.
Et ensuite, on continue avec alors Jacques-Emmanuel Parouteau pour un récital de harpe. Il faut savoir que le territoire, le pays d'Anceny où on est, est un territoire de harpe.
Ah, d'accord.
On a la seule, je crois, fabrication facteur de harpe d'Europe. Et le deuxième au monde.
Deuxième d'Europe.
Et au monde.
Aussi, parce que le premier, c'est un groupe italo-américain.
Ouais, voilà.
Un des instruments les plus difficiles à jouer, je crois. Là.
Ouais, c'est horrible. Non, mais c'est vrai.
Ça donne envie.
Je sais de quoi j'ai pas. Bien vendu.
Hein,
non, mais c'est vrai. Je suis technicien de harpe, justement.
D'accord,
c'est...
ok.
Voilà.
Et ensuite, on continue avec Philippe Chevalier et Patrice Lamure pour un duo piano-baryton. Donc là, on est dans les salons du château.
Ok.
Voilà, ça c'est jusqu'à 19h30 à peu près.
Okay.
Ensuite, changement de style. On passe des salons, on va dans la galerie de verre.
Déjà, apéro.
Ah oui, bah, l'apéro c'est tout le temps, tu sais.
D'accord,
chez nous.
À partir de 16h.
Ça démarre à 16h et ça ne s'arrête jamais.
Ça sera avec les goûters déjà.
On peut grignoter, on peut boire un verre. Là, les gens participent, ils viennent et ça aidera le château.
Exactement, voilà.
Dans la cagnotte.
Il y a un bar avec un food truck et tous les revenus liés au bar.
Et tout cela ira pour le.
Exactement, pour la restauration des douves.
Pour la restauration des douves.
Tout à fait.
D'où le nom Festival des Douves, évidemment.
C'est ça. Et donc ensuite, changement de style à partir de 19h30 où on passe dans la galerie de verre avec Token, donc c'est de la folk alternative.
Voilà.
Un peu de mal, folk.
C'est pas du catalan pourtant. Hein.
Non, c'est pas du catalan, mais c'est moi qui ai des origines un peu particulières. Ensuite,
c'est un concept qui n'existe pas à Grenoble.
Il fait trop froid.
Voilà, oui.
Donc, Sandré Siro, qu'on retrouve donc vers 20h30. Voilà, vous les avez entendus là à l'instant. Ensuite,
super.
C'est Nao. Band avec du ska rock, donc là ça commence à devenir un peu plus.
Ils ont un concept, c'est les ska péro rock.
On y revient.
Vous voyez, trop toute la nuit. Faire l'apéro, ça c'est
franco-français, ça par contre.
Voilà, c'est ça.
Et on continue avec le dynamisme avec Catherine Baseball. Alors, comme son nom ne l'indique pas, ce sont quatre garçons.
C'est ça,
effectivement.
Donc là, c'est du pop rock.
Ouais. Ils viennent de Rennes. C'est les groupes qui viennent de plus loin. En fait, c'est un petit peu la tête d'affiche du festival.
D'accord.
Ils se produisent un petit peu partout. Là, ils viennent de Belgique justement les jours avant à Charleroi. Ils font la route pour venir soutenir le château. Donc,
super.
C'est excellent. C'est excellent.
Et ensuite, on termine avec un Brud. Alors là aussi, j'ai énormément de mal.
Bruderschaft.
J'ai les neurones frigorifiés. Bruderschaft, voilà. Donc DJ Electro.
Ouais.
Et ça, c'est jusqu'à.
Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Parfait.
Voilà.
Tout cela, évidemment, on va le relayer sur les réseaux sociaux, sur le site de la radio, pour pouvoir permettre au plus grand nombre de vous retrouver avec le site du château, le plan, les heures, les dates, ainsi de suite. Bien. Et déjà l'heure presque du sous-marin, l'émission qui démarre à 19h. On va se quitter sur un petit générique et rappeler les principales informations de cette émission. Merci, Étienne. Alors,
merci beaucoup,
jingle.
Olivier.
Merci.
C'est normal.
Merci.
Attends, j'ai une dernière question parce que j'ai noté là, mais j'ai oublié. J'attends que la dame ait dit. J'ai oublié la dame.
L'Afterwork avec Olivier Piat.
Voilà, à retenir, un grand merci Kashka et Henrik d'être venus jusqu'à nous et de nous avoir fait cette jolie musique. Évidemment, le groupe Cendre et Sirop, qui vous êtes à l'origine de cette manifestation qui se déroulera le 15 février. Un grand, grand merci et d'être venu jusque-là et d'avoir apporté votre soutien à Daphné et Baudouin. C'est chouette.
Un plaisir.
Les artistes sont aussi, ils donnent autant qu'ils reçoivent et ça, ça fait très, très plaisir. Passionné, donc passionnant, je vous avais prévenu, Daphné et Baudouin. Alison, ami de la pierre et des artistes. C'est pas mal, hein?
Ah, c'est super beau. Merci beaucoup à toi, Olivier. Ami de la pierre, bonsoir.
Merci, Daphné. Merci beaucoup.
Merci,
Baudouin, une question. Est-ce que ce château est hanté? On n'en a pas parlé, mais ça fait partie des grands points d'interrogation.
C'est Daphné la spécialiste.
Ça, c'est quand il sait pas quoi dire.
Ah, c'est ça. Quand tu sais pas quoi répondre.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Elle arrête pas de me parler. Elle arrête pas de me parler de l'après-vie en ce moment.
T'en as senti des présences?
Non. Alors, peut-être dans la tour. Il y a une des tours la plus lointaine. Ouais, non, mais sinon, dans le reste, c'est top. Il y a rien. On se sent tellement bien.
C'est toi qui l'as dit. Moi, j'en ai vu plein.
Tu les vois, toi? Dis-moi que tu les vois.
Attends, on avait les concerts plein de monde. Ah non, c'était.
Alors, attends. Ça, c'était peut-être le côté portable tourné à l'envers pour éclairer la chapelle qui donnait des visions des fantômes. Hein, mais sinon,
Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour cette belle émission, l'Afterwork, la vie de château. Merci Étienne pour la réalisation. Et dans un instant, la suite de Radio Campus avec le sous-marin. À très vite, les infos sur internet. Ciao.